L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons, de la moutarde,
du pain et beurre. Les derniers jours de janvier ont vu fleurir dans toute la France les fêtes interconnectées de la BD. Initiative des autrices membres de la collective Girl Scout, ces événements ont mis en valeur le 9e art, poussant au-devant de la scène artistique des artistes aux pratiques inclusives, éthiques et respectueuses de tous les métiers de la BD. Les libraires indépendants ont répondu présent à cet appel. L'Épluche Libre vous propose aujourd'hui d'entendre la table ronde du 31 janvier 2026 intitulée « Des bulles et des strips pour lutter contre les violences ». En compagnie d'Anne-Laure Sévenoguéno, chroniqueuse BD, Ambre Leroy, bénévole au planning familial, et Priscille de Reckener, autrice BD. Bonne écoute. Bienvenue, merci beaucoup d'être présents si nombreux pour cette table ronde à l'Épluche Libre avec de super autrices, de super illustratrices et dessinatrices, montpelliéraines, mais pas que, on va dire occitanes. Ouais. Qui nous ont sollicité puisqu'il y a une actualité qui au départ était assez malheureuse, qui le sera encore sûrement dans les semaines à venir, mais, de laquelle a germé quand même une super solidarité, quelque chose d'assez inédit dans le monde de l'édition. Voilà, donc ce sont ces fêtes interconnectées qui rassemblent des centaines d'événements dans 70 villes, en France, en Espagne, en Belgique. C'est vraiment international, quoi.
C'est énorme,
incroyable. Et tout se fait avec une gouvernance partagée, du moins horizontale et collaborative. Donc, Priscille, dis-moi si...
Oui, mais pour l'instant, c'est parfait.
C'est
donc,
parfait.
Je n'ai rien à dire à modifier, c'est exactement ça.
Donc, on est ravis, nous, d'accueillir cette table ronde qui va traiter des violences sexistes, sexuelles et homophobes dans la BD, dans l'art, mais aussi et surtout, la question brûlante de la table ronde va être comment la BD peut être un outil, un levier de prévention, un levier de dialogue, de parole, et puis aussi, pourquoi pas, de près de soins, quoi, afin de enfin se pouvoir poser des mots et mettre des images là-dessus de toutes les manières les plus positives possibles. Pour m'accompagner ici, nous avons Ambre Leroy, donc vous êtes bénévole au planning familial.
Oui, moi je suis bénévole au planning familial de l'Hérault,
oui.
34.
Vous participez aussi depuis plusieurs années à un club de lecture, je crois.
Oui, alors c'est un club de lecture féministe qui est animé par le planning familial,
ouais.
Et qui a lieu une fois par mois. Voilà, une fois par mois on se retrouve pour parler lecture féministe. Et on aborde chaque mois une thématique différente.
Trop chouette. On va rentrer un petit peu plus dedans tout à l'heure. Donc, Priscille de Reckener, qui est ici aussi.
Oui.
Bonjour. Bonjour Priscille, merci aussi encore d'être là une deuxième fois. Et puis d'être là aussi par cette superbe exposition à laquelle vous avez participé. Donc, nous accueillons cette exposition jusqu'au 7 février. Nous avons Margot Saltel, Priscille de Reckener, Roxane B, ainsi que Lise Perry.
Et Gaëlle
Hersant, qui est en entrée, qu'on n'oublie pas, puisqu'en plus, elle a vraiment un tableau merveilleux à côté de la caisse. Je suis hyper contente d'avoir cette planche. Donc, Priscille, vous êtes autrice.
Oui, de bande dessinée, du coup.
De bande dessinée. Le cœur à contresens sera en dédicace après la table ronde. Au moment de l'apéro.
Oui.
Vous pouvez rester pour l'apéro, ça va être cool aussi. Vous êtes graphiste, illustratrice de métier en indépendante.
C'est ça, exactement.
C'est bien ça.
Ouais.
Et vous vous êtes spécialisée, on en parlera pendant la table ronde, autour de l'emprise
amoureuse.
En tout cas, c'est le sujet de ma première bande dessinée et j'espère ne pas me spécialiser que là-dedans, mais c'est ça qui m'a amenée à faire de la bande dessinée en tout cas.
Ouais. Très bien. Et avec nous, nous avons la chance.
Bonjour.
Bonjour. D'accueillir Anne-Laure Séveno-Guénaud, je prononce bien ?
Absolument.
Enchantée. Est-ce que vous pouvez parler... Oui, pardon, je suis désolée, c'est déstabilisant cette affaire. Mais ça tenait à cœur aux membres de la collective Girls Code d'avoir la table ronde enregistrée.
Bien sûr, ça se comprend tout à fait.
Donc vous êtes chroniqueuse BD.
Oui.
Vous êtes aussi agrégée de lettres. Mm-hmm. Vous êtes docteur en lettres...
Littérature comparée.
Littérature comparée, merci beaucoup. Merci d'être là. Vous allez nous parler donc, vous... de votre regard par rapport à votre spécialisation de presse et d'universitaire, par rapport à ces violences et par rapport au pouvoir des mots et au pouvoir de l'image.
De l'image.
C'est ouais. OK pour vous ?
Absolument.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, on a déjà fait une émission sur ce sujet l'année dernière, mais les formes de violence et la violence par l'emprise dans la relation ?
Ouais, en fait, moi j'ai choisi d'aborder ce sujet-là parce que je trouvais qu'il était vraiment, vraiment partout, très présent et plus que ce qu'on le croit. Et c'est surtout qu'en fait, je pense que quand on parle de violence physique, en fait, je pense qu'il n'y a pas de violence physique qui est possible sans passer par une emprise avant et des violences. On n'en arrive pas à se prendre un coup. Sans qu'il y ait eu d'abord un système d'emprise qui a permis ça. Mmh. Et je trouvais que c'était important justement de... Parce que la violence physique, on la voit, on comprend tous qu'elle est problématique. Mais en fait, si on est un peu plus au courant qu'il y a un système plus, on va dire, mental, plus une violence psychologique qui est mise en place avant et qui va permettre ça, je me dis que ça permet de mieux s'en prémunir, en fait, si on sait qu'il y a quand même toutes ces choses-là qui se mettent en place avant que le pire arrive, entre guillemets. Enfin, c'est déjà le pire, en vrai, les violences psychologiques, mais vous avez compris, je pense, ce que je veux dire.
Et donc, Le cœur à contresens, donc c'est votre première BD,
oui,
qui a paru chez Erol il y a 2 ans, à peu près.
Juin 2024, ouais, donc ouais. Un petit moment déjà.
C'est ça, ça file. C'est un sujet qui vous tient à cœur personnellement, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie personnelle.
Vie personnelle, vraiment, oui. Alors, ça reste une fiction. On pose souvent la question si c'est une auto, enfin, si c'est ma vie que je raconte, pas du tout. C'est vraiment une fiction, même si ça peut s'y apparenter, parce que je me suis dit, pour qu'on y croit, cette histoire, il faut que ce soit extrêmement réaliste. Donc, ça se passe en 2021, c'est une époque qu'on a tous connue. Mais j'ai voulu parler de ça parce que, comme je l'ai dit pour commencer, c'est quelque chose que j'ai vu de très près, de très loin, de moins loin, dans... chez plein de femmes, que ce soit des personnes que je connais bien ou moins bien, que ce soit tous les âges confondus. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. On peut pas continuer à ce qu'il y ait ça partout, chez tout le monde. Et je me suis dit, vraiment, si on arrive à plus faire comprendre que ça existe, déjà, c'est le premier rempart, entre guillemets, pour lutter contre ça, quoi.
Et juste en quelques mots, les principaux mécanismes de l'emprise, ça va se résumer.
En quelques mots, c'est dur. Hein.
Allez, en 2 minutes.
Je pense que c'est... Bah, là, en l'occurrence, si je m'arrête vraiment que à ce que je raconte dans ma bande dessinée, où c'est vraiment dans le cadre de la relation amoureuse, parce que l'emprise, ça peut être partout, ça peut être en amitié, dans le travail, ça peut vraiment se retrouver dans tout type de relation. Mais si je prends l'exemple un peu plus précis de la relation amoureuse, on a quand même toujours ce schéma de... Il y a un début sur les chapeau de roue incroyable, on a l'impression de vivre un film et tout, et puis il y a toujours un moment de bascule où on passe du rêve à l'horreur, quasiment en une seconde, et on comprend jamais pourquoi, et sauf que c'est trop tard parce qu'on s'est déjà accroché à des choses qui nous ont fait rêver, et le mécanisme tient un peu là-dedans, mais tient beaucoup là-dedans même, mais après voilà, il y a une dépendance qui se crée, il y a une isolation de la personne, c'est quand même beaucoup de choses. Si je rentre là-dedans, je pense que ça va être très plombant. Mais
c'est des mécanismes qui sont avérés, des mécanismes psychologiques d'emprise, d'isolement de la personne et d'attachement à outrance, de besoin, de dépendance.
Ouais,
en fait,
ça crée vraiment une dépendance qui anéantit complètement la personne qui vit ça et qui l'empêche de voir d'où vient le problème. Souvent c'est ça, c'est qu'on se dit en fait là ça va pas, dans ma vie tout est flou, il y a plus rien qui va, et on pense que on s'imaginera, enfin un peu trop au dernier moment, que ça vient souvent d'une personne. La personne nous fait croire que ça vient d'ailleurs, que ça vient de nous surtout, donc la personne se remet en question, et alors qu'en fait ce qu'il faut remettre en question souvent c'est le lien qu'on n'a pas envie de remettre en question parce qu'on croit que sans ça, on n'existe pas.
D'accord.
Voilà.
Ambre, ça, c'est des choses que vous voyez au quotidien en tant que bénévole au planning familial ? Ces systèmes, ces violences par l'emprise émotionnelle ?
Que moi, personnellement, je vois non. Enfin, non, pas spécialement en tant que bénévole.
À quel type de violence êtes-vous sujette ou pouvez-vous, de quel type de violence discutez-vous durant les clubs de lecture ?
Pendant les clubs de lecture ?
Ou au quotidien du planning hein, durant...
Oui.
Au sein du club, on peut aborder les... Enfin, comme je disais, chaque mois, on aborde une thématique. Mmh. Donc, il y a des thématiques, oui, qui peuvent recouper les violences que peuvent subir bah, notamment les femmes, parce que c'est quand même assez axé
c'est
sur...
souvent
même
les
si,
femmes...
les hommes aussi peuvent en subir, hein, évidemment.
Mmh. Alors là, pour ça, vous pouvez lire Lucie Pétavin, Le coup de la virilité. C'est une lecture vraiment... Et en plus, qui a été réactualisée récemment. Donc, allez-y, les chiffres sont parlants.
Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Oui, on avait une thématique des violences sur les violences conjugales, notamment. On avait parlé de tout ça, des violences au sein du couple qui sont normalisées et que justement il faut dénormaliser et pas que ça devienne des choses banales. Ouais.
Et donc, comment vous vous positionnez, vous, en tant que bénévole ? Alors, vous êtes psychologue aussi de votre profession ?
Oui, par ailleurs. Pas du tout.
Pas au planning familial, bien sûr, mais je suppose que c'est quand même un outil. Pour vous ?
Oui, oui, bah évidemment, moi j'ai des patientes hein, qui viennent avec ce type de problématiques en libéral, et donc ça me permet aussi d'apporter ça quand je fais mon bénévolat ou dans le club de lecture, je peux rapporter un peu ce que moi j'observe. Et oui, des mécanismes d'emprise des personnes qui se sentent très coupables dans leur relation, alors qu'en fait c'est la relation en elle-même qui est problématique. Donc ça, c'est des choses qu'on rencontre.
Et donc le club aide à parler de ça plus facilement.
C'est très utile de se réunir autour d'un livre ou d'une BD d'ailleurs qui évoque la question et de se rendre compte que bah, ça fait énormément écho à beaucoup de gens. Quand on se dirige vers ce genre d'ouvrage aussi, c'est que parfois on a soi-même on est touché par la problématique.
D'accord.
Et donc c'est des moments où oui, on peut venir témoigner de ce que nous on vit, enfin pas moi, mais de ce que des personnes peuvent vivre ou ont vécu. Et c'est vachement important de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose, et de pouvoir échanger, partager nos expériences dessus,
c'est
thérapeutique.
C'est thérapeutique.
Oui, oui je trouve. Enfin, c'est ce que tout le monde... c'est ce qui ressort de ces clubs.
Et vous, Anne-Laure, donc avec votre regard de chroniqueuse, presse, ça fait longtemps que vous chroniquez, que vous êtes passionnée de BD.
Oui,
qu'est-ce que vous pouvez dire de ces relations d'emprise, de cette violence qui démarre uniquement au début par des mots, par des sentiments, et puis voilà, qui peut dégénérer ? Qu'est-ce que vous avez pu...
Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est un sujet qui n'était pas tellement traité en bande dessinée il y a une dizaine d'années.
D'accord.
La seule bande dessinée notable en France, c'était Sophie Lambda, donc Tant pis pour l'amour. Et ça fait plusieurs années que ça se développe, qu'il y a vraiment toute une littérature, alors soit de la fiction, soit de l'autofiction, soit de l'adaptation d'essais, comme par exemple l'essai de Mathieu Palin, Nos frères, nos pères, nos amis, ou l'essai d'Anne Bouillon, une avocate qui est spécialisée dans la défense du droit des femmes, et que donc ça permet une ouverture et ça permet vraiment à un public qui n'est pas forcément familier des essais de découvrir ce qu'est l'emprise, peut-être même de se rendre compte qu'on est victime d'emprise ou que des proches sont victimes d'emprise. Et ce que je trouve très bien, par exemple, avec l'album de Priscille, mais je citerai aussi celui de Fanny Vella qui s'appelle Le Seuil, c'est que ça sort complètement des stéréotypes. C'est-à-dire que le stéréotype qu'on a, c'est encore celui des années 80, femme battue, etc. Plutôt femme racisée, femme d'un certain âge, qui n'est pas forcément extrêmement cultivée. Or, on s'aperçoit que c'est vraiment dans tous les milieux. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience extrêmement importante qui permet de faire bouger les lignes. Et on le voit actuellement avec Bon, il y a plus de devoir conjugal. Voilà, depuis hier ou avant-hier, je crois.
Les lignes sociales et juridiques.
Il y a beaucoup d'avancées. Et puis après, il y a aussi tout le milieu de la BD qui a accompagné MeToo, mais ça, on pourra peut-être en parler à un autre moment.
Merci beaucoup. Priscille, est-ce que vous avez eu des retours de lectrices, de lecteurs suite à votre BD, suite à la publication de votre BD?
Ouais, bah alors ça, c'est assez fou parce qu'en fait, il y a vraiment des nuances folles. C'est-à-dire que je peux avoir des retours autant qui vont me dire « Non, mais le type est insupportable à la deuxième page. J'en pouvais plus, j'ai envie de me tuer. Vraiment conscient des red flags et tout. » Voilà. Et en même temps, il y a des gens qui vont me dire « Mais en fait, moi, j'ai pas compris. Enfin, le mec est super à la fin de la... » Ouais, vraiment, je peux... Et donc, en fait, on voit vraiment à quel point ce sujet-là est pas compris encore chez tout le monde de la même façon, qu'il y a vraiment de... Il faut pédaler encore. Et ça, ouais, c'était assez fou. Et j'ai été assez surprise aussi d'avoir des retours... plus masculins, qui ont été honnêtes et qui m'ont dit en vrai, ça m'a mis mal, je me suis reconnue. Et j'ai trouvé que c'était des retours hyper importants aussi. Pour le coup, je ne m'y attendais pas du tout. Et après, bon, j'ai des très, très beaux messages aussi de personnes qui m'ont témoigné. Mmh. J'ai eu leurs histoires aussi en privé, ça leur a fait écho à ce qu'elles ont vécu, etc. Des remerciements, etc. Mais voilà.
Mais c'est vrai que c'est l'une des forces hein, de cette BD. C'est-à-dire qu'on se dit, ça va arriver aux autres. Comme vous disiez, Anne-Laure, voilà, j'ai pas le profil. Mais en fait, il n'y a pas de profil, quoi. C'est un truc... voilà, on a tous, je pense, des personnes de notre entourage, peu importe, finalement, et la catégorie socio-professionnelle. Et bon, ben, en général, c'est quand même plutôt les femmes, mais aussi... D'un autre côté, cette emprise peut avoir lieu d'une femme sur un homme, étant donné que la violence peut s'exprimer de plein de manières. Ça peut être une violence aussi économique, une instabilité dans le couple. Donc, c'est l'une des forces de cette BD, je trouve, de montrer que bah, voilà, ça peut arriver aussi dans notre cercle intime. Ambre, est-ce que dans votre cercle de lecture, dans votre club de lecture, il y a certains livres qui un petit peu sont sortis du lot dans les discussions que vous avez eues avec les participants et les participantes.
Sortis du lot, c'est-à-dire ?
Des livres où vous avez remarqué qu'il y avait plus d'échanges ou qui ont marqué les personnes, qui ont ouvert la discussion.
Ouais.
S'il n'y a pas de titre en particulier, c'est pas...
Oui, bah je... tous les livres qu'on a lus ensemble... ont fait réagir et ont amené des discussions variées.
Vous pouvez en citer
Le dernier là, que je me souviens, c'est Un désir démesuré d'amitié de Hélène Giannucci, je pense bien.
C'était un roman, un essai ?
C'était un roman, ouais, c'est un roman-essai. Enfin, elle parle de sa vie personnelle. Où elle raconte une histoire et en même temps elle fait des digressions, où elle philosophe, elle. Ça parle de faire famille autrement.
D'accord.
Faire famille, mais en n'étant pas forcément marié, en couple, ou en étant faire famille avec des amis, par exemple.
D'accord. Voilà.
Donc elle parle un peu de ça, de sortir du couple traditionnel.
Ouais. Et donc, vous disiez tout à l'heure, c'est thérapeutique.
Oui.
Et dans le concret, ça donne quoi, en fait, cette thérapie entre guillemets par le livre?
Ouais. Alors ça dépend des thématiques, mais en fait c'est pour essayer aussi de. On a ce type de violence donc qu'elle parle dans la BD, ça rentre aussi dans le fait qu'on est dans des normes sociales qui sont quand même très établies et de pouvoir lire d'autres types de lectures qui ouvrent un peu l'esprit sur d'autres formes d'être ensemble, d'être en famille, d'être en couple. Ça peut aussi dire, on peut aussi sortir des cases et des normes dans lesquelles on est tous et dont on n'ose pas sortir, par exemple, pour explorer d'autres choses et dans lesquelles justement il y a. Alors ça ne veut pas dire que dans tous les couples il y a des violences, pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais que ça ouvre l'esprit aussi sur d'autres formes de liens et de relations qui peuvent être pour certains peut-être plus saines ou plus ouvertes, par exemple.
Et combien y a-t-il de participants à vos séances de lecture?
Alors, on est assez nombreux. C'est entre 10 et 20 personnes à chaque fois.
Tous les mois ?
Ouais, chaque mois, ouais.
Et vous revoyez un petit peu les mêmes visages ou...
Oui, il y a des gens qui viennent tout le temps, il y en a qui viennent une fois de temps en temps, donc c'est très aléatoire. Ouais.
D'accord, mais bon, c'est suivi. Et...
Oui, c'est quand même très suivi.
Et donc depuis...
Et puis, on a un groupe WhatsApp où on échange aussi nos lectures. Enfin, à la fois ce qui a été dit pendant les séances et à la fois les lectures extérieures.
Depuis combien d'années ?
Là, ça fait 4 ans.
Ça fait
2022.
4 ans. Et c'est bien installé, bien reconnu.
Ouais, là, c'est... Ben, y a une centaine de personnes sur le groupe WhatsApp.
Ah oui.
Alors, ouais. Donc tout le monde ne vient pas à chaque fois, mais oui, c'est très suivi. Ouais, enfin, c'est très demandé aussi. Même on est en train de dire aux gens, enfin, de fermer un peu, de pas... En fait, on commence à être trop nombreux, parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même garder un groupe assez petit pour que tout le monde puisse être à l'aise pour parler aussi, parce
alors,
que si on est trop nombreux, ouais. Ça devient plus compliqué.
De pouvoir... Chacun avoir son espace de parole aussi,
c'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Alors est-ce qu'il faudrait pas que ce groupe fasse des bébés ?
Ben là c'est en, pour parler, c'est en ouais. Discussion de est-ce qu'on va le doubler, est-ce que voilà pour septembre essayer de réfléchir à peut-être une autre formule, enfin où il soit rajouté un groupe à voir.
D'accord, très bien.
Ouais.
Anne-Laure, je crois que vous avez des projets. Je crois que vous travaillez actuellement sur une base de données libre. Hein. De la BD, vous allez en parler, et aussi sur un roman graphique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Alors, non, je ne travaille pas sur un roman graphique,
ah,
peut-être un jour. Mais...
Pardon.
Non, je suis en partenariat avec le site qui s'appelle Opalcare, qui a été créé par une survivante de violences conjugales, que certains connaissent peut-être, parce que c'est une figure de la société montpelliéraine. Elle s'appelle Vigdis Maurice Herrera. Donc, elle a créé un site qui permet de faire son auto-diagnostic de violence conjugale. Vous connaissez peut-être le violentomètre. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus précis, avec des questions dans plein de domaines, y compris l'intime. C'est plus facile parce que vous êtes face à vous-même, simplement, et vous pouvez vraiment dire tout, sans pudeur, sans honte, sans culpabilité. Et donc, une fois que vous avez rempli ce test, ça vous permet de voir si vous êtes dans le vert, dans le orange, dans le rouge, dans l'extrême rouge. Et ça vous donne aussi des ressources, soit juridiques, soit médicales, soit voilà, dans vos régions. C'est pas spécifiquement réservé au bassin montpelliérain. Et donc, il y a ce site qui est plutôt à destination des entreprises, parce que comme le disait Madame Pétavin, ça a un coût, les violences faites aux femmes, et ça a aussi un énorme coût en entreprise. Parce que quand on est sous emprise, qu'on est complètement vidé, et qu'on a peur, qu'on est terrorisé, on n'arrive pas à bien travailler. Et donc, ce logiciel, il est aussi accompagné d'un blog pour donner pas mal de renseignements. Et là, nous sommes en train de créer une base de données pour, dans un premier temps, consacrer juste simplement à la BD et au roman graphique parce que c'est accessible à tout un public et puis que le pouvoir de l'image est fort. Je pense que Priscille va en reparler. Mais ensuite, on l'ouvrira à des essais, à des romans. On parlait aussi, on parlait tout à l'heure de la bande dessinée où les titres consacrés aux violences conjugales se développent. Bah, vous avez bien vu que dans la rentrée littéraire récente, il y a eu beaucoup aussi d'ouvrages romanesques ou d'autofiction consacrés à la violence conjugale.
Et donc, merci beaucoup pour cet enchaînement tout préparé. Donc, effectivement, le pouvoir de l'image. Donc là, on en revient à notre question brûlante. Est-ce que la BD est une aide face aux violences, donc qu'elles soient d'emprise ou qu'elles soient plus physiques, et peu importe qu'elles soient dans le privé ou dans le professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Priscille de Rockener ?
Bah, évidemment, je pense que ça peut aider, sinon j'aurais pas fait, fait ce que j'ai fait. Mais je pense que ça peut aider à différentes strates, à différentes personnes. Comme je ne sais plus qui avait dit ça, mais en fait, ça peut aider autant les personnes qui vivent ça, déjà, voilà, cœur du problème, que les proches. Et ça, c'est énorme parce que se rendre compte qu'un proche vit ça. ça aide vraiment la personne, en fait. Parce que si on est conscient qu'on a un proche à nous qui est dans la sauce, on va dire, déjà, c'est très compliqué d'aider dans ces cas-là. Donc, si on en est conscient, c'est beaucoup mieux. On sait qu'il faut rester ouvert, qu'il faut pas... Parce qu'en fait, quand quelqu'un est en emprise, il a envie de partir, puis le lendemain, il veut plus partir. Donc, c'est très dur à suivre pour les proches. Des fois, on a envie de péter un plomb et de dire, vas-y, je te laisse tomber, là, tu me saoules avec à pas savoir ce que tu veux. Bah, en fait, déjà, si on est conscient que l'emprise crée ça... on le comprend mieux et on peut tendre la main et rester la porte ouverte plus correctement, on va dire, et rester là pour accompagner comme ça. Donc déjà, voilà, si déjà des gens qui, même s'ils pensent que ce sujet-là ne les touche pas, s'ils lisent des ouvrages sur ces thèmes-là et qu'un jour ça arrive, mm-hmm. Et ben ils en auront entendu parler, ils seront plus aptes à agir comme il faut face à ça. Et après, ben, bien sûr, si quelqu'un est vit une situation de violence et rencontre un livre qui lui fait ouvrir les yeux sur ce qu'il vit, mm-hmm. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Alors bien sûr, des fois c'est trop tôt, des fois on n'est pas prêt pour lire ça, mais je pense qu'on en avait discuté aussi avec Anne-Laure, c'est le livre, en fait, ça peut permettre dans ces situations qui sont très délicates, justement quelque chose d'un peu doux pour quand c'est trop dur de dire à quelqu'un qui tient à la personne, à son bourreau, en fait, parce qu'en fait, c'est ça, la personne part pas parce qu'elle tient trop à son bourreau, donc ses proches ne peuvent pas lui dire frontalement « c'est un con, barre-toi ». Donc, glisser un petit livre, faire un petit cadeau, et en espérant que ce soit lu et que ce soit peut-être compris ou que ça ouvre un peu les yeux, bah, le livre peut permettre cette douceur-là, que la parole, parfois, est un peu, peut être un peu brutale. Mmh. Donc moi, c'est l'espoir que j'avais, je pense, consciemment et inconsciemment, quand j'ai voulu faire cet ouvrage.
Anne-Laure, je sens que vous voulez appuyer.
Je voulais rebondir sur... parce que parfois, les proches ont vraiment une incompréhension du phénomène. Et je voulais rebondir sur ce que disait Priscille, puisqu'il y a des études qui ont été faites. Et en moyenne, il y a 7 allers-retours avant de quitter la personne toxique. Donc... ça peut paraître très déroutant, très difficile pour les proches aidants. Parfois même, ça peut créer une sorte de traumatisme, hein, de dépression chez les gens qui aident, parce qu'ils ont l'impression de mettre de l'eau sur du sable. Mais c'est vraiment l'emprise, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Et je pense que ça peut... Voilà, le côté aide, non seulement pour les victimes, mais pour les proches, c'est important.
Et donc, vous pensez vraiment que la BD est l'un des médiums pour ça ?
Oui, parce que, par exemple, l'un des derniers ouvrages qui est sorti en bande dessinée, c'est un ouvrage qui s'appelle « Amour toxique » de Bénédicte Moret. Et c'est un ouvrage dans lequel, bon, elle raconte son histoire, mais elle le fait sous forme anthropomorphe. C'est-à-dire, ce sont des animaux. Alors, le personnage toxique, c'est un blaireau. je pense que c'est un peu fait exprès, mais donc ça apporte une certaine distance, et en même temps c'est un peu comme les fables, les apologues, c'est-à-dire que sous la distance, sous le déguisement animal, on arrive à voir les choses, mais de façon plus douce, comme disait Priscille. Et puis il y a aussi autre chose qui me semble très important dans le pouvoir de l'image, l'emprise, ou le contrôle coercitif. C'est toute une somme de petites choses. De petites choses qui, prises indépendamment, paraissent complètement anodines. Et qui exercent une pression, littéralement, quand elles sont réunies. Et dans le livre de Priscille, par exemple, on voit bien qu'il y a un décalage entre... Je ne me souviens plus du nom du protagoniste.
Les noms des
Erwan. Qu'il y a un décalage entre l'attitude d'Erwan, ses paroles et ses gestes. Et ça se manifeste par le langage graphique. Et c'est un plus par rapport à un roman, parce qu'on peut s'arrêter sur une bande dessinée.
Qu'en pensez-vous, vous, Ambre ? Est-ce que la BD peut être un outil de prévention, de guérison, ouais, contre les violences sexistes, sexuelles et homophobes ?
Ouais. Oui. Bah, en fait, nous, notre club, au départ, c'était uniquement les romans qu'on lisait, je crois les deux premières années ça a été ça, et en fait un jour on s'est dit y a des gens qui aiment pas non plus beaucoup lire, enfin, c'est pas forcément leur truc, Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour élargir un peu le club et que d'autres personnes puissent venir partager aussi des lectures, mais sans pour que ce soit un roman. Ouais. Et donc, on a introduit la BD. Et en proposant aux personnes à chaque fois de lire, en fait, on propose tous les trois mois soit un roman ou soit une BD. Donc, on peut lire l'un ou l'autre, ou les deux, si on veut. Voilà. Et ça permettait justement à tout le monde de pouvoir... lire quelque chose et venir en parler.
Est-ce que vous sentez qu'il y a un blocage parfois par rapport au livre ?
Oui. Déjà, il y a plein de choses, mais il y a des gens qui n'aiment pas lire déjà de base, enfin pas plus que ça. Et puis après, il y a une question de temps aussi, que les gens n'ont pas forcément de lire un roman, ça prend du temps. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas lire, ne pas avoir envie de lire. Et donc la BD, ça peut être une bonne alternative aussi pour ouvrir la lecture aussi.
Donc c'est un grand oui pour toutes.
Oui.
Oui, la BD, un super outil, un art nécessaire, un art utile et important. Mm-hmm. Oui. Pour le mot de la fin, je voulais demander à Priscille, qui êtes autrice, quel est l'avenir et qu'est-ce que la collective Girls Code, qui a l'initiative de ces fêtes connectées, va mettre en place ou va essayer de mettre en place pour l'année prochaine pour le Festival international de la BD d'Angoulême?
Alors, pour l'instant, on n'en parle pas vraiment parce qu'on est quand même dans le... Enfin, notre collectif Montpelliérain fait partie du grand collectif national.
D'accord.
Et c'est quand même quelque chose qui s'est monté en réaction à l'annulation d'Angoulême. Donc, on sait probablement que l'année prochaine, il y aura un nouvel Angoulême.
On espère. Voilà, je crois que tout le monde aime.
Qui sera merveilleusement plus respectueux de tout et égalitaire. mais on y croit. Ça va arriver. Mais en tout cas... on n'a rien acté pour le moment, mais ce qui s'est passé entre les autrices en local ici, c'est trop énorme, je pense, pour qu'il ne se passe rien derrière. Déjà, rien que là, en un mois, on a réussi à organiser tout ça, alors que quasiment personne ne se connaissait à la base. Ouais. Et là, aujourd'hui, on monte sur 4 jours plusieurs événements honnêtement, on peut le dire aujourd'hui, ça fait déjà 3 jours. À chaque fois, il y a beaucoup de monde, ça intéresse les gens. Je trouve ça génial de se dire que... Alors, on ne sait pas si on refera vraiment ça l'année prochaine ou quoi au caisse, mais ce serait super. Et de se dire qu'il n'y a pas que Angoulême qui aura des événements pour les gens qui s'intéressent à la BD, de se dire que ça peut être dans toutes les villes, ça serait incroyable. Et après, juste ne serait-ce qu'entre nous, on trouvait ça super de le fait d'être plusieurs, parce que se dire je vais être auteur, c'est quand même pas rien, c'est un grand saut dans un bain où on n'y comprend rien. Et on s'est dit que si on pouvait être un point de ralliement pour toutes les futures autrices qui veulent se lancer là-dedans et justement pas se faire berner par les éditeurs, mieux comprendre leurs contrats, etc., si on peut devenir un petit espace confortable pour tous ces gens-là, ça serait chouette.
On clôture là, donc merci à toutes, merci à tous aussi. Et je vous dis à très bientôt sur L'Épluche Livre.
L'Épluche Livre.
Vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette ?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange
des cornichons, de la moutarde, du pain du beurre.